chères auditrices, chers auditeurs, mes vœux pour cette nouvelle année. Pour cette première chronique de 2018, je vous propose de nous intéresser à la génétique. Du grec « génos », signifiant la naissance, le gène désigne l'unité d'information employée à chaque fois qu'il faut faire naître des protéines. Les protéines, ce sont ces molécules complexes qui ont une fonction définie par leur forme. Les gènes, ce sont des sortes de recettes de cuisine. Vous voulez tel gâteau, il y a tel ensemble de gènes, représentant chacun une étape de la recette. Les gènes se regroupent dans des livres de cuisine, c'est le génome. L'homme a un génome portant environ 22 000 gènes. Des variations dans une recette correspondent à une variation dans les gènes. Pour un même gène, on parle d'allèles différents. Mais qu'est-ce qui fait que les gènes sont lus? Qui sont les cuisiniers de cette métaphore? Ce sont des protéines. Elles sont en charge de la lecture des gènes, mais aussi responsables de la réparation du génome et de sa duplication. Du développement embryonnaire à la spécificité des globules rouges, aux anticorps, tout est codé par des gènes. Je me dois aussi de mettre en valeur un troisième niveau en jeu, l'épigénétique. Ce sont l'ensemble des marqueurs chimiques qui viennent s'apposer dans le génome. Leur rôle consiste à mettre en valeur, masquer ou exprimer différemment de mêmes gènes. L'épigénétique, ce sont les notes de bas de page, les soulignements, les mises en gras de notre livre de cuisine. Prenons à présent un exemple, la taille d'un individu. C'est bien le résultat de l'expression de nombreux gènes. Du fait du grandissement d'une personne et l'aboutissement de beaucoup de mécanismes, il est normal qu'il ait de nombreux gènes en jeu. La variabilité de chacun de ces gènes expliquant nos petites différences de taille. Par exemple, il faut des gènes dans l'évolution des os, des muscles. Mais la part génétique n'est pas totalement déterminante. Les gènes sont lus avec la marque de l'épigénétique. C'est ce qui fait que deux jumeaux n'ont pas toujours une taille parfaitement identique. Ce qui fait la différence, c'est l'environnement, mais aussi un hasard moléculaire intrinsèque. Il faut penser à un tel mécanisme génétique comme étant une longue séquence d'expression de nombreux gènes, une longue recette de cuisine si vous préférez. Chaque gène gère un petit facteur et son expression a une influence plus ou moins grande. Sur une longue recette, si vous remplacez le sucre par du sel, ça ne fera pas la même différence que si vous remplacez du citron jaune par du citron vert.
Ah bah oui.
Pour estimer l'importance de l'influence de l'environnement et du hasard, il faut faire des études statistiques assez précises. L'une des façons, c'est par exemple de considérer des études de jumeaux. On réunit des jumeaux séparés à la naissance et on compare les similitudes en comparant aussi si ce sont de vrais ou de faux jumeaux. Cela permet de cerner avec précision l'importance de la génétique. Si un gène est un interrupteur central, alors la corrélation entre deux vrais jumeaux serait de 100%, comme le sexe. Si l'expression a une corrélation un peu moindre, comme 50%, cela signifie que l'apport génétique est certain, mais qu'il est trop complexe pour ignorer les parts de l'environnement et du hasard. C'est le cas de la taille. Cela vous laisse vous faire une idée de ce que ça représente. Prenez deux jumeaux et dites-vous qu'il y a une corrélation de 50% pour qu'ils aient la même taille, indépendamment de l'environnement dans lequel ils ont vécu. Indépendamment de l'environnement, car rappelez-vous, ils ont été séparés à la naissance. 50%, c'est beaucoup. Mais notez que quelqu'un de grand l'est non pas par choix, mais bien par une contribution forte de son patrimoine génétique. Maintenant, j'aimerais passer au message de ma chronique. J'ai envie de prendre à bras le corps une question de société difficile, du moins périlleuse. Il y a un autre caractère qui a une corrélation de 50%, c'est l'homosexualité. Tout comme devenir grand n'est pas un accomplissement personnel, les homosexuels ne le sont pas devenus. Ils ont exprimé des gènes déjà en eux. Et les facteurs environnementaux ne sont pas ceux auxquels certains pensent. Pour tout dire, l'hypothèse actuelle pour l'homosexualité masculine, c'est une exposition hormonale légèrement différente dans l'utérus pendant la grossesse de la mère. Bref, rien à voir avec la culture. Mais ça, on le savait déjà, les comportements homosexuels sont répertoriés dans toutes les cultures et à toutes les époques. On retrouve même de tels comportements chez d'autres espèces. Laissez-moi maintenant faire barrage à ceux qui disent qu'il faut exclure de tels comportements, quitte à faire de l'eugénisme. Les variations génétiques sont nécessaires à l'évolution. Pour qu'une espèce évolue, il faut à la fois de la variation et de la sélection. Si l'homosexualité paraît à première vue difficilement un avantage, le fait qu'elle soit présente dans énormément d'espèces différentes révèle au moins que ça n'est pas un désavantage. Ceci dit, on a constaté chez certaines espèces que les couples homosexuels étaient naturellement ceux adoptant les petits des parents morts. Du fait de l'impossibilité de procréer, ils auraient un rôle naturel pour s'occuper des orphelins. Ainsi, l'adoption n'a jamais fait débat dans la nature. Bref, il est temps pour moi de m'arrêter. J'aimerais juste faire passer un dernier petit message.
On t'écoute.
Il faut absolument que les scientifiques prennent part dans ces débats. On ne peut plus laisser des choses affreuses et qui portent atteinte à autrui se laisser dire. Des gens souffrent pour de vrai. Et s'il y a de petites choses que nous pouvons faire avec nos bagages scientifiques, il faut que nous le fassions.